Semaine, retrouvez Novorama, l'actualité de la scène indie rock, pop, électro, avec des chroniques de nouveaux albums et une interview d'un groupe en fin d'émission. Retrouvez Novorama tous les vendredis à 18h sur Radio G 101.5. Salut et bienvenue dans Novorama, l'émission qui parle de nouveautés. Chaque semaine, on vous propose une sélection de disques à écouter. Salut Clément.
Salut Antoine.
Tu nous as ramené 3 albums aujourd'hui.
Eh bien, cette semaine, nous allons être exponentiels dans la douceur et la relaxation avec le dernier album de London Grammar, de Sun Lux et la collaboration de Nick Hakim et de Roy Nathanson.
Et en deuxième partie d'émission, on a un invité spécial cette semaine, c'est Ron pour la sortie de son nouvel album, Ron and Friends. Nous parlerons également du spectacle qu'il a pas pu terminer à cause du Covid-19, mais également du César qu'il a reçu dernièrement, du problème de la culture en ce moment avec la pandémie. Nous referons le monde avec Ron, c'est en deuxième partie d'émission. Mais on commence tout de suite par le nouveau Sun Lux. dans Novorama. On vient de s'écouter un extrait de leur dernier album qui s'appelle Tomorrow Free, Clément.
Oui, et même lorsqu'on connaît déjà le post-rock troublant et très contrasté de Sunlux, son nouvel album Tomorrow's Three apparaît comme une conclusion remarquable d'une trilogie particulièrement épique. Le premier volet, Tomorrow's One, d'août 2020, était déséquilibré mais sobre. Tomorrow's Two était lui plus introspectif. Et ce troisième chapitre d'avril 2021 est aussi intense que flamboyant et déprimé. Le fil conducteur du triptyque est à chercher du côté de la reconstruction ou de la réinvention, mais comme un papillon qui émerge en pleine dystopie.
Et l'album s'ouvre sur un instrumental qui crée une tension un poil cacophonique, hein, Clément.
Mais oui, sur le titre Unbind, hein, qui commence par un quatuor à cordes, et une mélodie sentimentale très vite rejointe par des effets sonores qui voltigent et vont lentement en crescendo. Viennent ensuite une basse grondante et la batterie affirmée et déséquilibrée de Yan Cheng, avant qu'un solo de guitare de Rafik Bhatia, plein de distorsions, ne prenne le dessus. Le morceau évolue dans la cacophonie tout en s'accrochant au reste de son tempo et de sa mélodie. Et bien que le mélange volatile de textures acoustiques électriques soit une marque de fabrique du groupe, Ryan Lott manipule souvent ses timbres acoustiques, hein, pour obtenir des effets qui paraissent venir d'un autre monde. Mais ici, les textures opposées semblent rester distinctes et se mêler étroitement, un peu comme une boule de neige qui dévalerait une pente enneigée. Ce mélange disparate de son naturel et électronique est une marque de l'album Tomorrow 3, qui apparaît très tôt sur un deuxième morceau, qui amplifie des cordes étouffées ainsi que des percussions à la main sur les fûts de batterie, lancés sur des intervalles mineurs étincelants de clavier.
Oui, ce titre Different Kind of Love est le premier morceau vocal d'un album qui, comme les précédents volets de la série, alterne des morceaux chantés avec un tissu plus instrumental, hein, Clément.
Effectivement, et c'est le morceau qui introduit la voix fragile et angoissée, et parfois déformée de Ryan Lott, tandis que dans d'autres morceaux tels que Plans We Make, Seaver et Vacancy, il est accompagné par des chanteuses dont Roland Andrews, Kia Victoria et Katja Bonnet, cette dernière ayant déjà prêté sa voix sur le titre Plans We Made de l'album Tomorrow's One, un titre qui fait écho au morceau Plans We Make, hein, de ce nouvel album, qui s'ouvre tranquillement sur un hurlement lointain, des sons sourds déformés ainsi que des percussions organiques éparses et qui retrouve le chant murmuré de Katja Bonnet. Tout au long de l'album Tomorrow 3, Sunlux jongle habilement entre délicatesse et grandiloquence, entre naturel et contre-nature, avec comme finalité l'acceptation du changement. Et on s'écoute tout de suite un deuxième extrait, c'est Vacancy featuring Kia Victoria. C'est Sunlux dans Novorama. Still
Baby It's You, un extrait du dernier album de London Grammar dans Novorama, un album que tu as écouté Clément.
Bien oui, sur leur nouvel album Californian Soil, la chanteuse Hannah Reid prend les rênes en tant que leader visionnaire de London Grammar, livrant un ensemble de morceaux assurés, dynamiques et féministes qui est sans doute le meilleur du trio anglais à ce jour. Sorti 4 ans après leur premier album, celui-ci ne s'éloigne pas tant que ça de la dream pop teintée de soul du groupe, mais avec une nouvelle orientation sonore et thématique. Les résultats sont plus lumineux, plus épiques et tout à fait étonnants. Hannah Reid est alors soutenue par les autres membres du groupe, Dan Rothman et Dot Major, et semble fraîchement libérée et débordante de confiance, exposant ses émotions avec une conscience de sa vulnérabilité et poussant sa voix à des extrêmes angéliques qui évoquent des chanteuses aînées hein, comme Dido ou encore Elizabeth Fraser. Et l'influence de cette dernière est évidente dès le début hein, puisque Californian Soil sonne comme une autre version de Teardrop de Massive Attack, avec le chant d'Elizabeth Fraser qui nous avait tant marqué sur ce morceau. L'esprit folktronica de Dido se retrouve lui dans des morceaux tels que Missing, le groove pétillant de Baby It's You et le remarquable Lose Your Head qui s'appuie sur les influences du rythme baléarique et la voix acrobate de Hannah Reid. Puis sur le palpitant Lord It's a Feeling, Hannah Reid traite des chagrins d'amour par le biais d'une catharsis lyrique explicite avant qu'un break rythmique menaçant ne martèle la douleur encore plus profondément. How Does It Feel est ensuite un hymne à la rupture qui prolonge ce sentiment, un bel adieu qui apparaît comme le moment pop le plus clair de l'album Californian Soil. De l'autre côté du spectre, le plus dépouillé All My Love tire sa puissance d'un piano délicat et des aigus angéliques de la voix d'Anna Reid, soit un moment fort qui donne le frisson. Dans l'ensemble, ce voyage méditatif apaise et nourrit, transformant les chagrins d'amour et la douleur en une opportunité de mûrir, soutenue par certaines des meilleures productions sonores que le trio ait jamais livrées. Californian Soil, c'est une pièce maîtresse de la discographie de London Grammar et une étape importante dans la maturation artistique du trio. On s'en écoute tout de suite un deuxième extrait, c'est Lose Your Head de London Grammar dans Novorama. I need to learn when this thing called love, when it's a mirror, baby. Can you see all those parts of me broken across the world? I need to find some kind of peace of mind. It's a demon, baby. Yeah.
N-O-V-O, R-A-M-A, Novorama.
Some stuff we like in America. Some stuff to like.
Hakim et Roy Nathanson dans Novorama viennent s'écouter un extrait de leur album Small Things, Clément.
Bien oui, l'artiste de musique néo-soul Nick Hakim et le saxophoniste Roy Nathanson proposent un mélange d'inspiration terrestre et cosmique sur Small Things, leur premier album ensemble. Ce partenariat est inattendu, hein, si ce n'est que les artistes se sont rencontrés par le biais de l'insaisissable ensemble de jazz Onyx Collective, basé à New York, avec lequel ils se sont tous deux produits par le passé. Small Things est le premier album à sortir sur le nouveau label d'Onyx Collective, Nixo, un label qui s'annonce particulièrement prometteur. Et cet album éclectique et romantique rappelle les débuts de Nick Hakim avec son album Green Twin de 2017 dont je vous avais parlé dans cette émission. Et il constitue un hommage passionné à l'instrument de Roy Nathanson. Nick Hakim chante d'ailleurs « Elle parlait au saxophone » d'une manière intime. Tout cela parce qu'elle a reconnu que le saxophone est une âme sœur. Il chante cela sur le morceau qui a donné son nom à l'album, Small Things, et avec beaucoup de précautions, comme s'il réveillait quelqu'un d'un profond sommeil. Les voix lo-fi et les voix staccato cèdent alors la place à un rythme de batterie doux et le résultat vous transporte.
Ouais, alors les 7 titres de cet album Small Things sont nés des graines des poèmes déjà écrits par Roy Nathanson, de sorte que chaque texte pensif est d'abord de la poésie et ensuite une chanson.
Eh bien oui, et sur le morceau Things to Like and Not Like in America, Nick Hakim finit par répéter le sentiment qu'il y a simplement so much stuff, so much American stuff. Le morceau Moonman dépeint lui impeccablement le sentiment de lever les yeux chaque nuit pour redécouvrir la voûte céleste qui brille dans le ciel sombre. Puis sur le titre New Guy to Look At, Nick Hakim livre des observations sur différents étrangers dans son wagon de métro, tandis que la ligne de basse prend progressivement de l'ampleur comme un train qui parcourt le rail. Ce morceau donne l'impression d'être dans une station de métro de New York avec le saxophone de Nathanson qui se fait l'écho de murmures lointains. Et ainsi la poésie intime de Nathanson ancre chaque chanson dans le domaine viscéral et la voix de Nick Hakim transmet ses contemplations avec ferveur comme pour les faire siennes. Voilà, l'arrangement musical met en tout cas en valeur chaque élément pour créer une somme bien supérieure à ses parties déjà remarquables. On s'en écoute tout de suite un deuxième extrait un peu plus enlevé, c'est Cry and Party de Nick Hakim et Roy Nathanson.
Youth. It's a biennial, right? Yeah, I just planted 3 on my front lawn. They were like bulbs. Old ones. The ones with the filaments and the heads too big for their bodies. Yeah, you know, biennials. Cry half the time, party the rest. To chomp on, it spreads its wings, and its tears settle on the grass just in time. Dance floor set to freeze. Come on now, please, please, please. We'll be right back.
Erika Kim et Roy Nathanson dans Novorama. C'est la deuxième partie de notre émission avec un invité cette semaine, un invité spécial, c'est Ron pour la sortie de son nouvel album Ron and Friends chez Infine. Bonjour Ron.
Bonjour.
Alors comment ça va, les confinements, le couvre-feu, tout ça?
Écoute, moi ça va, je dois dire que je me sens un peu privilégié parce que déjà j'habite en Bretagne, près de la mer, donc je me sens assez privilégié parce que je ne le ressens pas frontalement, si ce n'est la scène me manque, les concerts me manquent, la vie culturelle, le spectacle vivant me manque, voilà, c'est peut-être la principale chose qui me manque, mais sinon je dois dire que j'ai rarement été aussi créatif, j'arrête pas d'enchaîner des projets, des trucs, des musiques de films, des albums, donc je suis plutôt heureux. Oui, moi quand je crée je suis bien, donc là je crée beaucoup, donc ça va plutôt.
On va en parler justement, t'as un agenda effectivement bien rempli pour un artiste en ce moment. Justement, avant le premier confinement, tu étais au théâtre du Châtelet avec une compagnie de danse, hein, La Horde, un spectacle original où tu étais sur scène entouré de danseurs. Ce spectacle, en fin de compte, s'est arrêté net avec la Covid-19 et il devait reprendre, je crois, en décembre, mais effectivement, vu le contexte, ça s'est toujours pas fait, hein, c'est ça?
Ouais, ça c'est un peu dur. Effectivement, c'est un spectacle qu'on a créé avec le collectif La Horde et les danseurs du Ballet National de Marseille pour le théâtre du Châtelet. Alors on a quand même eu de la chance parce qu'on a pu faire 7 spectacles juste avant le premier confinement. Et alors normalement, effectivement, on avait toute une tournée qui était prévue derrière. On devait tourner avec ce spectacle un peu partout. Évidemment, ça s'est effondré comme un château de cartes, ouais, avec le Covid. Mais normalement, on est censé reprendre ce spectacle dès que c'est possible.
Alors comment il s'est monté ce projet? C'est une initiative de ta part ou c'est les danseurs qui sont venus te voir?
Non, c'est une initiative de ma part. En fait, ça vient d'une proposition du théâtre du Châtelet. Je savais pas, mais le plus gros plateau de d'Île-de-France, quoi, dans le théâtre. Donc c'est une gigantesque scène. Et
la plus grande scène d'Île-de-France, alors c'est ça?
Ouais.
D'accord.
Donc je me suis dit bon, il faut que j'occupe ce plateau. Je me disais voilà, il faudrait que j'essaye de faire quelque chose d'autre cette fois.
Et donc tu t'es dit une comédie musicale?
Ah ouais, non. Alors c'est pas c'est presque ça, hein, c'est,
bah oui.
On peut dire aussi un opéra électro, oui, il y a plein de mots possibles en fait, hein, ouais. C'est vrai que c'était plus qu'un concert, je voulais que ce soit un spectacle visuel qui raconte des choses. J'avais très envie qu'on parle de l'urgence climatique, de problèmes écologiques, d'effondrement. Rapidement avec La Horde, ça a tourné autour de la thématique des effondrements en fait d'une civilisation, tout ça, et ça donnait ce décor un peu post-apocalyptique, et puis
c'est ça qui est dingue, ouais. Effectivement, c'est que justement ce spectacle, on peut dire, relate en quelque sorte de la beauté du chaos, hein. Je l'ai vu écrit dans plusieurs articles. Tu l'avais vu venir ce chaos?
C'était assez dingue parce que cette pandémie, comme tout le monde, on l'a pas vraiment vu venir. Je dirais que moi je l'ai même vraiment pas du tout vu venir parce que j'étais tellement concentré sur la création de ce spectacle depuis des mois que je regardais pas beaucoup les infos. J'entendais vaguement parler d'une épidémie qui arrive et tout. On a commencé à faire le spectacle, ça commençait à devenir assez sérieux. Donc voilà, tous les matins on se levait en se disant est-ce qu'on va pouvoir jouer ce soir, et puis les premiers soirs ça passait. Après il y a eu l'histoire de la jauge à 1000 personnes. Tout d'un coup il pouvait y avoir seulement 1000 personnes dans la salle, donc il y avait plus de la moitié de la salle qui se vidait d'un coup,
ouais.
Mais ça va, il y avait l'énergie, les gens étaient super et tout, donc c'était toujours un plaisir de jouer, mais tout d'un coup on commençait à voir des gens dans le public qui portaient des masques,
ouais.
Ça aussi c'était un peu étrange, il y avait une espèce d'effet miroir parce que nous sur scène là, à un moment donné il y a une scène où les danseurs portent des masques, plutôt des masques à gaz, mais il y a quand même un truc comme ça,
ouais.
Et tout d'un coup il y avait un effet miroir super troublant qui vraiment nous faisait dire putain, mais l'actualité est en train de nous rattraper.
Est-ce que tu vas l'adapter ce spectacle à la pandémie? Est-ce que tu vas rajouter justement des masques? Est-ce que tu vas l'aborder, cette problématique de la pandémie?
Je pense qu'on va le faire évoluer. Ouais, ce spectacle, on va le faire. Il va évoluer de toute manière. Il va être amené à évoluer. Il va évoluer avec l'actualité.
Tu parles de l'écologie dans ce spectacle. Tu es engagé effectivement pour l'écologie. Tu es un des premiers signataires de Musique Declares Emergency France, un mouvement effectivement né à l'international. Comment fonctionne cette structure? Tu t'es engagé à quoi concrètement?
J'étais déjà dans le mouvement anglais en fait, mais voilà, en France, il y a toute une équipe qui s'est décidée, qui s'est activée pour pour structurer ça en France. Ça commence par des choses très simples et évidentes, en fait. Ouais. Surtout dans le monde de la musique électronique, il y avait vraiment des choses absurdes en termes de tournée et de routing. Et parfois, moi-même, hein, j'étais amené à faire des voyages en avion de 12 heures pour faire un concert d'une heure à l'autre bout du monde. Et puis, je revenais, j'avais rien vu de, enfin, tu vois, c'était des choses absurdes comme ça. Et là, je pense à ça en premier parce que c'est vraiment pour moi, le truc le plus évident. C'est que
Donc, tu vas arrêter les tournées internationales ou?
Non. Déjà, alors, effectivement, je vais essayer de prendre le moins possible l'avion, ça c'est une première chose. Après, non, moi, ça c'est fait partie des réflexions. Moi, je me suis vachement questionné là-dessus. À un moment, j'étais un peu radical. Je me dis bon, allez, j'arrête. Je fais que des concerts qui nécessitent un trajet en train et pas plus et tout. Enfin, et après, je me suis dit, mais c'est quand même super triste de se couper du monde. Moi, par exemple, je pense là à l'île de la Réunion que j'adore où j'ai joué plusieurs fois. J'ai envie d'y rejouer, mais je pense que l'idée c'est si j'y vais. Ce sera pas juste pour faire un concert et je rentre chez moi. En fait, il y a des artistes géniaux là-bas avec qui je suis en contact et tout. C'est peut-être pour faire une résidence, créer des choses collectivement avec eux, rester là-bas, pourquoi pas faire un disque là-bas, faire une série de concerts. Enfin, tu vois que, ouais. que ce voyage énorme ait un sens. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on est en train de rédiger dans une charte avec mon agent qui s'occupe du booking, des dates et tout. C'est pas évident pour eux, hein, parce que eux, évidemment, c'est dans leur intérêt de faire le maximum de concerts, de rentabilité et tout, évidemment. Mais ils sont, c'est super parce qu'on peut discuter. Ils sont conscients de ces problèmes-là et ils ont envie aussi de faire des efforts et tout ça. Donc voilà, c'est réfléchir là, dans ce sens.
En tout cas, Ron, tu n'as jamais été aussi entouré que maintenant. Tu viens de sortir un album avec que des invités, tes amis. Je vais en situer quelques-uns. Odezen, Dominique A, Flavien Berger, Yael Naïm, Camélia Jordana. C'est toi qui est allé les chercher. Comment s'est monté ce projet en fin de compte?
Ouais, bah en fait, c'était un disque qui n'était pas prévu parce que justement, moi, normalement, j'étais censé faire une tournée de ce spectacle avec les danseurs et puis aussi une tournée solo de l'album Room with a View qui est quand même sorti pendant le premier confinement, tu vois. Et puis voilà, en fait, je me suis dit, bon, évidemment, tournée qui annulée. Au début, c'est une date, deux dates, trois dates, puis c'est toute la tournée qui s'annule. Donc, je me retrouve un petit peu désœuvré chez moi, comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Et puis voilà, il y a cet album qui prend forme dans les échanges avec ces artistes là. Ça commence avec Casper Clausen qui est le chanteur d'un groupe génial qui s'appelle Efterklang. C'est un groupe danois que j'ai rencontré à Berlin et on avait super envie de faire un truc ensemble. Et donc du coup ça commence comme ça, je lui propose de poser sa voix sur une musique. Et puis après, comme j'étais en train d'échanger avec Yael Naïm, on parlait de faire un truc ensemble et puis je lui en envoie une autre et puis petit à petit je me retrouve avec quelques morceaux. Rapidement, je vois qu'il y a quand même un lien. Au début, franchement, c'était pas vraiment conscient, mais je me rends compte que j'ai 3 ou 4 chansons et je me dis tout d'un coup que j'ai très envie de faire un album de chansons avec des voix, travailler autour de la voix. Ouais. Je pense que c'est aussi une espèce de contrepoint. Moi, j'aime bien quand je fais un disque que le suivant soit aller dans la direction opposée un peu.
Et oui, et là, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a pratiquement que des chanteurs français. Ça, c'est un peu nouveau, effectivement, dans ton répertoire. Bon, tu fais de la musique essentiellement instrumentale, quand même. C'est un album un peu particulier. Est-ce que t'as pas peur de brouiller les pistes avec cet album, de perdre un peu tes fans de la première heure?
Ouais, c'est possible que ça surprenne. J'ai déjà reçu quelques messages où c'était assez drôle. Ouais, bah ouais, où je vous voyais. Désolé, j'aime tout ce que tu fais depuis le début, mais là, je comprends pas du tout le délire. Bah, franchement, ça me fait je vais pas dire que je m'en fous, hein. Je me dis merde, c'est dommage. Mais bon, en même temps, j'ai pas du tout envie de m'empêcher. J'avais très envie de le faire, donc je le fais, tu vois. Puis il y a aussi plein de gens, surtout, ça honnêtement, j'en ai pas reçu beaucoup, hein, des messages comme ça. Je reçois surtout des choses très gentilles et plutôt super enthousiastes, voire euphoriques. Ouais. c'est plutôt super cool. Les retours sont très cool. Mais effectivement, moi j'ai conscience que dans ma discographie, c'est un objet un peu particulier, un disque un peu particulier, quoi.
Oui, parce que là, on est loin effectivement de la musique électronique. Enfin, il y a effectivement de l'électronique, mais il n'y a plus de beat techno là. Il n'y a plus de beat électro, en fin de compte.
Ouais, c'est vrai. Il y a assez peu de rythme. Le beat, ouais, c'est vrai. En fait, je pense vraiment aussi, c'est pareil, hein, là je fais une petite psychanalyse rétroactivement, je pense que si j'ai fait ça, c'était une manière de lutter contre justement l'isolement qui nous est un peu imposé en ce moment dans notre société à cause de la pandémie. Ce projet, il a vraiment commencé dans le confinement pur et dur, tu vois, quand on était vraiment isolé, qu'on pouvait pas sortir de chez nous et tout. Ouais. C'est marrant d'ailleurs parce que tu vois, là, normalement, les précédents albums, Normalement, moi, je vais la chercher, la solitude. J'ai besoin de m'isoler, je me coupe, je m'éloigne de ma famille.
Ouais, tu es même parti à Berlin pour les premiers albums.
Ouais, à Berlin, parfois je suis parti juste dans un petit bled en Bretagne, m'isoler dans une petite maison. Enfin, je me coupe un peu du monde pour composer en général. Et là, tout d'un coup, l'isolement il m'est imposé. Et là, je me rends compte que ça marche pas du tout. Il faut vraiment que ça vienne de moi, quoi. Sinon, si ça m'est imposé, ça m'inspire pas du tout. Donc là, j'avais envie de créer, d'échanger, de tisser du lien en fait aussi, parce que dans tous ces gens avec qui j'ai travaillé sur cet album, c'est des gens que j'admire et tout. J'avais envie d'échanger avec eux, de créer du lien. Voilà.
Alors, on va écouter justement un extrait de ton dernier album, le morceau avec Alain Damasio et Mood. Il s'appelle 1. On en parle juste après.
On dormait à la belle étoile sous un ciel nu.
Alain Damasio et Mood dans Novorama avec Rhône, justement. Rhône, tu es avec nous aujourd'hui pour parler de ton album Rhône with Friends. Alain Damasio, c'est un écrivain que tu connais bien puisque tu l'as déjà invité sur scène, je crois, dans l'une de tes performances. Je me souviens notamment de ce concert à la Philharmonie de Paris avec le batteur de Battles, notamment. Alain Damasio, il a écrit un roman d'anticipation qui s'intéresse aux sociétés de contrôle sous le modèle démocratique. inspiré notamment des travaux de Michel Foucault ou de Gilles Deleuze, dans lequel justement les citoyens se contrôlent mutuellement. On y est en ce moment avec cette pandémie, les smartphones connectés.
Oui, ben clair, hein, putain, Alain, la zone du dehors, son premier roman, tout est dedans, quoi. C'est vraiment un visionnaire. C'est un roman qui est sorti il y a quoi, 20 ans peut-être maintenant, je sais plus exactement, mais en tout cas, c'est la science-fiction d'anticipation. Ça porte bien son nom parce qu'il avait tout anticipé, quoi.
Tu en as parlé avec lui justement de ce qui se passe en ce moment.
Bon, on en parle tout le temps, hein, Alain, dès qu'on se voit. Ouais. C'est quelqu'un, c'est une inspiration énorme pour moi, Alain. Ses bouquins m'ont vraiment ouvert le crâne. J'ai rencontré Alain, effectivement, j'avais 18-19 ans. Et j'ai rencontré parce que je voulais adapter au cinéma son premier roman, La Zone du Dehors. J'ai jamais réussi à faire ça, mais ça m'a permis de le rencontrer, de devenir son pote. Quoi.
Tu voulais passer derrière la caméra, en fin de compte ? Tu voulais.
Ben, en fait, tu sais, moi. Oui, parce que j'ai fait des. Alors c'était un projet que j'avais avec un copain, Ludovic Dupré. En fait, moi j'étais étudiant en cinéma et donc avant de faire de la musique, enfin je faisais de la musique, mais j'avais aucune ambition là-dedans. Pour moi, je pensais que j'allais travailler dans le cinéma.
Mais il y a quelque chose avec ces artistes électro qui passent derrière la caméra. Je pense même à Daft Punk, Laurent Garnier aussi veut faire du cinéma, je crois. Enfin, il a sorti un documentaire, mais il était parti pour faire une fiction ces derniers temps. Je sais que tu connais Laurent Garnier, tu en as déjà parlé avec lui.
Ouais, bah Laurent Garnier. Putain, ouais, Laurent, juste, c'est pour moi c'est un personnage très important dans mon parcours parce que déjà c'est quelqu'un que j'allais voir, que j'allais écouter au Rex Club, tu vois, tous les vendredis ou soirées automatiques, machin et tout. Moi j'habitais en face du Rex Club et donc c'est quelqu'un que j'adore. Et en fait dès que j'ai commencé à faire du son, c'est un mec qui m'a vachement encouragé et qui m'a en fait, j'irais même donné des ailes parce qu'il m'a décomplexe, enfin le fait que tout d'un coup un mec que t'adores, que tu sois adoubé par Laurent Garnier, que moi j'adorais, tout ça, qui me disent putain, à chaque fois que je sortais un truc, il me faisait un petit mail super gentil en me disant putain ça tue et tout. Donc il m'a vachement encouragé, aidé et tout, et c'est un mec super important pour moi. Et c'est vrai que lui, son rapport à l'image est hyper intéressant. Moi je me souviens des clips de Laurent Garnier, me plaisait beaucoup. Je me souviens d'un clip de Monsieur Oiseau pour Laurent Garnier qui était super, mais il y en a eu plein.
On n'a pas parlé, mais il y a aussi Quentin Dupieux, hein, qui est un artiste électro mais qui fait du cinéma également. Enfin, il y a pas mal d'exemples, effectivement, c'est assez frappant. Justement, tu as pensé arrêter la musique un moment avec ces confinements ou pas du tout? Tu as eu peur pour la culture?
Alors moi, j'ai jamais pensé à arrêter la musique personnellement. Il y a peut-être un truc que j'ai constaté qui est un peu bizarre, mais c'est que comment? Bon, comme je le disais, la scène me manque beaucoup. J'ai super hâte de reprendre des concerts, mais en vérité, à un moment donné, j'ai tellement. J'ai été pas mal créatif ces derniers temps. J'ai fait cet album, mais j'ai aussi fait une musique de film. J'ai enchaîné plein de projets, sans doute pour essayer de combler justement l'espèce de vide dans lequel on est actuellement. Finalement, j'ai jamais créé autant que maintenant. J'arrête pas de faire des choses et c'est super, mais il manque quelque chose et c'est la scène, c'est l'échange avec le public, c'est les concerts, quoi.
Donc effectivement, là, le confinement, ça t'a permis de travailler, mais aussi de recevoir un César. C'est pas rien non plus. Justement, tu étais à la cérémonie des Césars, tu as pu la vivre dans les coulisses aussi. C'est une série qu'on a pas mal critiquée. Est-ce que tu comprends la polémique qu'il y a eu après les Césars?
J'avoue que j'ai pas trop regardé, j'ai pas trop suivi. Ce qui est arrivé jusqu'à mes oreilles, c'est une partie du discours, c'était en gros, les artistes se plaignent trop. C'était pas drôle cette cérémonie. À chaque fois, il y avait des discours un peu politiques engagés et tout ça. Et puis, j'ai entendu l'inverse. J'ai entendu, c'est vraiment le petit monde de l'entre-soi, des privilégiés, c'est dégueulasse, machin et tout. Donc, en fait, ça va un peu dans les deux sens. C'est ça. En gros, il y a des gens qui trouvent que c'était trop politisé, d'autres qui trouvent que ça l'était pas assez. Je sais pas, le seul truc, c'est que moi, je peux pas cacher, je peux pas mentir sur le fait que j'ai été hyper touché de recevoir ce César. Donc, je t'avoue que moi, ce soir-là, j'étais sur un petit nuage, je m'y attendais pas du tout, hein. Déjà, il y a pas de triche, t'es pas au courant, on t'annonce tout d'un coup que t'es. Et donc, moi, je suis arrivé comme un zombie sur la scène parce que ça me paraissait, complètement dingue et je suis hyper touché. Quand j'étais gamin, je regardais les Césars.
En tout cas, tu as gagné un César, mais pas de victoire de la musique, hein, parce qu'il n'y a plus de catégorie, la musique électronique.
Oui, c'est vrai.
Alors, ouais. Effectivement, c'est Laurent Garnier qui avait gagné d'ailleurs la première fois quand ils ont créé ce prix. C'était dans l'ancien monde il y a très très longtemps, il y a plus de 20 ans effectivement, je crois que c'était en 97 si je ne me trompe pas. Comment ça se fait d'après toi que cette catégorie est disparue comme ça? L'organisatrice a notamment dit les DJ, les artistes électro ne peuvent pas vraiment rendre hommage à Juliette Gréco ou Christophe. C'est une des raisons pourquoi il n'y a pas de catégorie musique électronique aux victoires de la musique. On marche un peu sur la tête.
Ouais. Ben oui. Moi pareil, là, je te dis, c'est vraiment ça. Moi, je te disais, autant quand j'étais gamin, je regardais les Césars et tout. Les victoires de la musique, ça m'a jamais vraiment intéressé. En fait, je me suis jamais vraiment reconnu là-dedans. C'est vrai que c'est marrant parce que la seule image que j'ai des victoires de la musique, le seul flash que j'ai, et en plus, j'ai dû le voir en rediffusion, ou je sais pas comment j'ai vu ça, mais c'est Laurent Garnier qui reçoit un prix. Et je me souviens que ça m'avait touché. Voilà. Mais le reste, pour moi, ça correspond. Alors, je suis sûr qu'il y a plein de trucs très bien. Il y a plein d'artistes super intéressants, sûrement et tout. Mais pour moi, c'est un autre monde. C'est la variété. J'ai pas du tout l'impression de faire partie de ce monde-là. Donc, j'ai aucune.
Tu dis le monde de la variété. Mais là, tu as invité par exemple Camélia Jordana sur ton album. Elle fait partie un peu des artistes de variété.
Ouais, bien sûr. Mais en fait, j'ai rien contre la variété. Dans le sens où la pop par exemple m'intéresse énormément. Moi, je suis fasciné par les Beatles, et ce qui m'intéresse le plus en fait, c'est d'arriver à expérimenter dans la musique, mais en touchant un maximum de gens possible, parce que l'expérimentation pure, Pierre Schaeffer, tout ça, non, enfin, il y a des trucs super là-dedans évidemment, mais je veux dire le truc obscur du mec laborantin qui expérimente des choses et personne les entend, ça, moi, ce qui m'a, enfin, j'ai réalisé ça avec les concerts, mais j'ai besoin d'être dans l'échange et dans la communion et tout ça. Et pour revenir à Camélia Jordana, en fait, effectivement, elle a un gros pied dans le mainstream, elle fait des trucs très, mais elle a aussi, on le sait moins peut-être, mais elle a un pied dans l'underground grave. Elle a fait des trucs super intéressants avec Barden du groupe Pony Hawks. Elle a une voix dingue. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de chanteuses qui ont une voix aussi qui me met les frissons comme celle de Billie Holiday, une voix. Donc voilà, c'est pas du tout foutre une barrière entre l'underground et le mainstream ou je sais pas quoi, ça m'intéresse pas du tout. Mais ce qui est vrai, c'est que je sais que par exemple, moi, mon label in fine, un petit label indépendant, enfin tu vois, c'est des passionnés, c'est des tout petits David face à Goliath, des majors et tout ça.
Ouais, je les ai vus prendre position justement sur les victoires de la musique.
Ben voilà. Voilà, eux, je sais que ça les énerve grave, quoi. Eux, ça les énerve grave parce que
c'est un manque de visibilité aussi pour les artistes.
Bah exactement. Exactement. Et c'est des mecs passionnés qui travaillent comme des oufs et qui font. Tu vois, ce qui est assez ouf, c'est que c'est vrai que souvent c'est des dénicheurs de talent. C'est des mecs, ils vont découvrir des artistes qui vont être récupérés après par l'Universal, des grosses boîtes et tout ça, qui eux, grosso modo, prennent pas beaucoup de risques. Ils attendent de voir si ça marche ou pas, si ça remplit les salles, et hop, là ils débauchent les artistes. Bon, tu vois, moi je suis toujours chez Infiné, j'ai pas cédé à la tentation. Ça fait 12 ans que je suis chez eux et j'adore travailler avec eux. C'est, pour moi, c'est l'énergie qui est la plus importante, tant pis pour les moyens. Parfois j'aimerais faire des clips avec un peu plus de thunes et tout, c'est pas possible, mais ça vaut pas de toute manière l'énergie qu'ils ont, la passion qu'ils ont et tout ça. Et ces mecs-là, effectivement, ils mériteraient largement d'être remerciés, récompensés, reconnus pour leur travail.
Des prix, tu en as reçu au long de ta carrière, je pense. En 2017, tu avais reçu le prix Chevalier des Arts et des Lettres par le ministre de la Culture de l'époque, je ne sais plus qui c'était d'ailleurs, en 2017.
Moi non plus. En fait, je suis jamais allé là. Mais là, je suis jamais allé la chercher.
Ah, t'es jamais allé la chercher? Ah bon, pourquoi?
J'ai pas eu le temps, mais j'étais pareil, hein, j'étais touché. Moi, tu sais, toutes les récompenses, j'en avais jamais au lycée, au collège, j'étais pas un très bon élève, donc moi, je prends, hein, c'est cool, mais bon, là, j'y suis pas allé.
C'était une protestation politique, même, ou pas du tout?
Non, honnêtement, c'est juste que j'ai pas fait le... Ouais, pas le temps.
D'accord. En 2020, t'as reçu quand même le grand prix SACEM aussi des musiques électroniques. 2021, César de la meilleure musique originale. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux aujourd'hui, Rhône?
Oh, je dirais la santé en premier. Non, mais c'est vrai, c'est le premier truc de base. Après c'est presque lié, hein, mais je dirais la musique et les concerts en particulier, en espérant que ça puisse reprendre très vite et qu'on puisse tous se retrouver dans des salles de concert, et autant dans des petits clubs à 4h du matin en fumée ou que dans des magnifiques théâtres, enfin tout ce que tu veux, mais du moment qu'on soit en ensemble et qu'on vibre ensemble en même temps sur la même chose.
D'accord, eh bien, c'est bien dit. On va écouter un extrait de ton dernier album, le morceau avec Georgia. Le morceau s'appelle Waves of Devotion. Merci Ron, merci d'être passé dans Novorama.
Merci beaucoup.
Chanteuse Georgia avec Ron à l'instant pour son album Ron and Friends. C'est le dernier morceau de notre émission de cette semaine. L'interview de Ron, vous pouvez la réécouter sur notre site internet, Clément.
Novorama.com.
Exactement. Et Noveo et Raema, on se retrouve, nous, sur les ondes la semaine prochaine, même jour, même heure. Salut.
Salut Antoine, à la semaine prochaine.
Radio G 101.5 FM.
Luttons ensemble contre la Covid-19. Téléchargeons l'application Tous Anti-Covid. Oh, franchement, vivement qu'on entende plus ce message. Ah non, vraiment. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à nous en débarrasser. Comment? Eh bien, plus vous êtes nombreux à utiliser l'appli Tous Anti-Covid, plus elle est efficace contre le virus, et donc plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà